Partie 1. Compréhension orale. Cette partie du test comprend trois sous-parties. Vous allez écouter trois enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, prenez la feuille marquée d'une petite croix. Première sous-partie. Écoutez le premier enregistrement. Pour les questions suivantes, de 1 à 7, choisissez la bonne réponse A, B, C ou D. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 7. Maintenant, écoutez le premier enregistrement.
À Saint-Paul-Montpellier, 620 habitants, on prépare un événement digne des plus grandes capitales du monde. Aux manettes, Jean-Michel, 49 ans.
C'est le compte à rebours de la cousinade. Nous sommes à 10 jours des grandes festivités qui vont réunir 5000 personnes. Les derniers préparatifs, c'est du sport. Comme un marathon qui se terminerait par un 100 mètres.
Il y a 3 ans, Jean-Michel s'est lancé un immense défi. Organiser la plus grande rencontre de cousins au monde. Une cousinade. Le record est jusqu'à présent détenu par une famille américaine avec 2700 descendants réunis. Pour y arriver, Jean-Michel a transformé son salon en standard de multinationale. Après plus de 80 000 heures passées le nez dans les archives, à recenser tous ses cousins du côté de son père et de sa mère, il faut désormais les convaincre de se déplacer le jour J. Car ils sont éparpillés aux quatre coins de l'Hexagone, mais aussi en Italie ou en Pologne. Certains vivent même à l'autre bout du monde.
J'ai créé un site web sur la cousinade avec un certain nombre d'informations, des petits messages pour faire vivre au quotidien les préparatifs.
Célibataire et sans enfant, Jean-Michel se dévoue corps et âme à la réalisation de son projet. Il a même ralenti sa carrière de cadre supérieur dans les assurances pour avoir plus de temps.
Ce n'est pas un sacrifice personnel, je le fais par plaisir. J'ai pris conscience que le plaisir le plus délicat, c'est de faire plaisir aux autres. Et je crois que ce jour-là, je vais faire le bonheur de plus de 5000 personnes.
Mais autour de lui, la démarche interroge. Est-ce que cela a vraiment du sens d'organiser un gigantesque rassemblement de cousins qui, parfois, n'ont même jamais entendu parler les uns des autres? Est-ce qu'on partage encore quelque chose quand on ne partage que des ancêtres? Ou s'agit-il d'un simple effet de mode, un besoin de racines dans un monde de plus en plus éclaté? Jean-Michel, lui, préfère ne pas douter. À l'origine de son idée folle, sa passion pour la généalogie, née un matin dans la demeure où il a passé toute son enfance. Ce jour-là, la famille accueille un drôle de visiteur.
C'était dans les années 70. Mon grand-père avait un cousin qui était décédé sans descendance. Et on a eu la visite d'un chercheur d'héritiers. Il a alors étalé un arbre. Mon grand-père ne comprenait pas. Un arbre généalogique? C'était la première fois de sa vie qu'il en voyait un. Et moi aussi. Mais dans la petite tête de gamin, j'ai tout de suite compris l'intérêt de la chose.
Depuis, Jean-Michel est hanté par ses ancêtres. Il y a 10 ans, à la mort de sa mère, il a décidé de pousser plus loin ses recherches généalogiques. C'est d'ailleurs de sa mère que Jean-Michel tient le goût des grandes réunions familiales. La fête qu'il organise depuis 3 ans, c'est un peu pour lui rendre hommage.
On a vécu des choses douloureuses, c'est vrai, mais on a toujours soigné aussi le côté convivial et festif. On n'a jamais raté une fête. Avoir des rendez-vous joyeux le plus souvent possible, c'est ce qui nous aide à avancer.
Mais réunir des milliers de descendants sur 5 générations, c'est le rêve fou d'un homme qui, paradoxalement, n'a jamais fondé sa propre famille.
Je suis donc célibataire, et quelque part, c'est peut-être pour ça que cette démarche a autant de sens pour moi. Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas transmis directement. Alors, j'essaye de transmettre autrement. Ce que je lègue, c'est une mémoire, un lien, un héritage que je dois à mes aïeux, à mes parents, mes grands-parents. C'est eux qui m'ont construit. Et aujourd'hui, à travers cette cousinade, c'est comme si je rendais tout cela vivant.
Maintenant, écoutez le premier enregistrement une seconde fois.
À Saint-Paul-Montpenis, 620 habitants, on prépare un événement digne des plus grandes capitales du monde. Aux manettes, Jean-Michel, 49 ans.
C'est le compte à rebours de la cousinade. Nous sommes à 10 jours des grandes festivités qui vont réunir 5000 personnes. Les derniers préparatifs, c'est du sport, comme un marathon qui se terminerait par un 100 mètres.
Il y a 3 ans, Jean-Michel s'est lancé un immense défi, organiser la plus grande rencontre de cousins au monde, une cousinade. Le record est jusqu'à présent détenu par une famille américaine avec 2700 descendants réunis. Pour y arriver, Jean-Michel a transformé son salon en standard de multinationale. Après plus de 80 000 heures passées le nez dans les archives, à recenser tous ses cousins du côté de son père et de sa mère, il faut désormais les convaincre de se déplacer le jour J. Car ils sont éparpillés aux 4 coins de l'Hexagone, mais aussi en Italie ou en Pologne. Certains vivent même à l'autre bout du monde.
J'ai créé un site web sur la cousinade avec un certain nombre d'informations, des petits messages pour faire vivre au quotidien les préparatifs.
Célibataire et sans enfant, Jean-Michel se dévoue corps et âme à la réalisation de son projet. Il a même ralenti sa carrière de cadre supérieur dans les assurances pour avoir plus de temps.
Ce n'est pas un sacrifice personnel, je le fais par plaisir. J'ai pris conscience que le plaisir le plus délicat, c'est de faire plaisir aux autres. Et je crois que ce jour-là, je vais faire le bonheur de plus de 5000 personnes.
Mais autour de lui, la démarche interroge. Est-ce que cela a vraiment du sens d'organiser un gigantesque rassemblement de cousins qui, parfois, n'ont même jamais entendu parler les uns des autres? Est-ce qu'on partage encore quelque chose quand on ne partage que des ancêtres? Ou s'agit-il d'un simple effet de mode, un besoin de racines dans un monde de plus en plus éclaté? Jean-Michel, lui, préfère ne pas douter. À l'origine de son idée folle, sa passion pour la généalogie, née un matin dans la demeure où il a passé toute son enfance. Ce jour-là, la famille accueille un drôle de visiteur.
C'était dans les années 70. Mon grand-père avait un cousin qui était décédé sans descendance. Et on a eu la visite d'un chercheur d'héritiers. Il a alors étalé un arbre. Mon grand-père ne comprenait pas. Un arbre généalogique? C'était la première fois de sa vie qu'il en voyait un. Et moi aussi. Mais dans la petite tête de gamin, j'ai tout de suite compris l'intérêt de la chose.
Depuis, Jean-Michel est hanté par ses ancêtres. Il y a 10 ans, à la mort de sa mère, il a décidé de pousser plus loin ses recherches généalogiques. C'est d'ailleurs de sa mère que Jean-Michel tient le goût des grandes réunions familiales. La fête qu'il organise depuis 3 ans, c'est un peu pour lui rendre hommage.
On a vécu des choses douloureuses, c'est vrai, mais on a toujours soigné aussi le côté convivial et festif. On n'a jamais raté une fête. Avoir des rendez-vous joyeux le plus souvent possible, c'est ce qui nous aide à avancer.
Mais réunir des milliers de descendants sur 5 générations, c'est le rêve fou d'un homme qui, paradoxalement, n'a jamais fondé sa propre famille.
Je suis donc célibataire, et quelque part, c'est peut-être pour ça que cette démarche a autant de sens pour moi. Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas transmis directement. Alors, j'essaye de transmettre autrement. Ce que je lègue, c'est une mémoire, un lien, un héritage que je dois à mes aïeux, à mes parents, mes grands-parents. C'est eux qui m'ont construit. Et aujourd'hui, à travers cette cousinade, c'est comme si je rendais tout cela vivant.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Deuxième sous-partie. Écoutez le deuxième enregistrement. Pour les phrases de 8 à 13, dites si c'est vrai, A, faux, B, ou si ce n'est pas dit dans le texte, C. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases de 8 à 13. Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement.
Des chevaux qui courent avec un coucher de soleil? Non, je ne pensais pas trouver ça en allant étudier à Lille. Voilà, ça fait 4 ans que je vis dans un studio à la ferme. Bon, je vous explique tout. Alors, chez moi, j'ai une petite cuisine où je peux recevoir plusieurs personnes, avec le petit coin salon aussi. À l'étage, j'ai une chambre avec tout le rangement, un petit bureau, là, avec une petite télé, et puis une petite vue sympathique sur les champs, sur la ferme. En fait, j'ai galéré à trouver un logement à Lille, et j'étais un peu désespérée. Sur le site de l'Université de Lille, j'ai vu Campus Vert. J'ai rempli un formulaire et j'ai dit oui sans avoir forcément vu de photos. Quand je suis venue visiter, ça m'a totalement plu. Il y avait juste à rapporter ma bouilloire, mon grille-pain, mes serviettes, mon torchon, enfin voilà. Mais sinon, tout est meublé. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut trouver à Lille. Et surtout, beaucoup moins cher. Au final, je ne me suis pas si loin que ça de la ville. 20-25 minutes sans les bouchons. Donc, la campagne, elle ne se ressent pas forcément. À la limite, je mets plus de temps à tourner autour de la fac pour trouver une place de parking.
Je m'appelle Henri Deldal, je suis agriculteur, maintenant à la retraite. On a adhéré au Campus Vert en 2003. On était les premiers sur la région lilloise. Je dirais que ce réseau a trois buts. Il permet de loger des étudiants à des coûts modérés. Nous, en tant qu'adhérents, il nous aide à conserver le patrimoine. Et troisième point, ça nous apporte un petit complément de revenus, parce que les retraites agricoles sont quand même légères. Cette partie de la ferme, où les étudiants sont logés, c'était une étable avant. On l'a transformée en quatre studios. Vous savez, nous, on a juste une petite exploitation d'une vingtaine d'hectares de terre. C'est pour ça qu'il a fallu se diversifier en maraîchage, en volaille et en logement étudiant.
Je suis beaucoup mieux ici plutôt qu'à Lille. Les étudiants que je connais, ils habitent tous au-dessus de bars, de restaurants, parce que généralement, c'est ce qui coûte le moins cher. Moi, je suis au calme, j'ai de la place. Pour réviser, je ne suis pas obligée d'être dans mon lit. Et puis, il y a vraiment ce côté plus proche, famille, qu'il n'y a pas avec d'autres propriétaires.
Aujourd'hui, le réseau Campus Vert est présent dans le nord de la France. On doit avoir entre 500 et 600 logements. Le problème de logement pour les étudiants, il est partout. Et des agriculteurs qui ont envie de transformer leur ferme, il y en a partout aussi. Alors, d'autres régions s'intéressent à nous, comme la Bretagne par exemple. Et puis, c'est une formule dont les étudiants gardent en général de bons souvenirs. Il y a même des mariages qui se sont faits. Nous, nos enfants ayant quitté le nid, on est content d'avoir encore des jeunes autour de nous. C'est vivant, c'est agréable.
Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement une seconde fois.
Des chevaux qui courent avec un coucher de soleil? Non, je ne pensais pas trouver ça en allant étudier à Lille. Voilà, ça fait 4 ans que je vis dans un studio à la ferme. Bon, je vous explique tout. Alors, chez moi, j'ai une petite cuisine où je peux recevoir plusieurs personnes, avec le petit coin salon aussi. À l'étage, j'ai une chambre avec tout le rangement, un petit bureau, là, avec une petite télé, et puis une petite vue sympathique sur les champs, sur la ferme. En fait, j'ai galéré à trouver un logement à Lille, et j'étais un peu désespérée. Sur le site de l'Université de Lille, j'ai vu Campus Vert. J'ai rempli un formulaire et j'ai dit oui sans avoir forcément vu de photos. Quand je suis venue visiter, ça m'a totalement plu. Il y avait juste à rapporter ma bouilloire, mon grille-pain, mes serviettes, mon torchon, enfin voilà. Mais sinon, tout est meublé. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut trouver à Lille. Et surtout, beaucoup moins cher. Au final, je ne me suis pas si loin que ça de la ville. 20-25 minutes sans les bouchons. Donc, la campagne, elle ne se ressent pas forcément. À la limite, je mets plus de temps à tourner autour de la fac pour trouver une place de parking.
Je m'appelle Henri Deldal, je suis agriculteur, maintenant à la retraite. On a adhéré au Campus Vert en 2003. On était les premiers sur la région lilloise. Je dirais que ce réseau a trois buts. Il permet de loger des étudiants à des coûts modérés. Nous, en tant qu'adhérents, il nous aide à conserver le patrimoine. Et troisième point, ça nous apporte un petit complément de revenus, parce que les retraites agricoles sont quand même légères. cette partie de la ferme où les étudiants sont logés, c'était une étable avant. On l'a transformée en 4 studios. Vous savez, nous, on a juste une petite exploitation d'une 20aine d'hectares de terre. C'est pour ça qu'il a fallu se diversifier en maraîchage, en volaille et en logement étudiant.
Je suis beaucoup mieux ici plutôt qu'à Lille. Les étudiants que je connais, ils habitent tous au-dessus de bars, de restaurants, parce que généralement, c'est ce qui coûte le moins cher. Moi, je suis au calme, j'ai de la place. Pour réviser, je ne suis pas obligée d'être dans mon lit. Et puis, il y a vraiment ce côté plus proche, famille, qu'il n'y a pas avec d'autres propriétaires.
Aujourd'hui, le réseau Campus Vert est présent dans le nord de la France. On doit avoir entre 500 et 600 logements. Le problème de logement pour les étudiants, il est partout. Et des agriculteurs qui ont envie de transformer leur ferme, il y en a partout aussi. Alors, d'autres régions s'intéressent à nous, comme la Bretagne par exemple. Et puis, c'est une formule dont les étudiants gardent en général de bons souvenirs. Il y a même des mariages qui se sont faits. Nous, nos enfants ayant quitté le nid, on est content d'avoir encore des jeunes autour de nous. C'est vivant, c'est agréable.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Maintenant, prenez la feuille marquée d'un stylo. 3e sous-partie. Écoutez le 3e enregistrement. Pour les espaces de 14 à 20, complétez le texte qui le résume. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire le texte. Maintenant, écoutez le 3e enregistrement.
Bonjour Cédric Mercadal, vous êtes ministre de la Santé. En Polynésie française, la situation est catastrophique pour les habitants des archipels éloignés qui ont besoin de soins. On va s'intéresser tout d'abord à la situation des évacués sanitaires, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin d'être envoyées d'urgence à l'hôpital pour être soignées. Les autorités locales dénoncent les conditions d'évacuation sanitaire. Un exemple, fin janvier, avec une mère de famille de Makemo refusée sur un vol intérieur. Elle n'a pas pu aller sur Tahiti, à Papeete, la capitale polynésienne, pour faire un test de dépistage ou la coqueluche. Quelle solution proposez-vous à nos malades dans les archipels éloignés ?
On a un territoire grand comme l'Europe qui aujourd'hui demande à faire du soin partout et auprès de tous. On a 39 000 évacuations sanitaires inter-îles par an. C'est énorme. Cela veut dire que des gens viennent quasiment tous les mois à Papeete se faire soigner dans le cadre de maladies graves, mais aussi pour des dépistages ou pour de la visite de routine. Il faut qu'on continue à travailler le système des évacuations sanitaires, parce que ce qui s'est passé à Makemo est une situation particulière, où on n'a pas voulu prendre en compte un dépistage sur Tahiti pour ne pas contaminer les membres de l'avion. C'est une décision du commandant de bord, qui est tout à fait compréhensible au regard du principe de précaution. Mais il faut pouvoir dépister les gens au plus près. On a envoyé ce jour-là l'ensemble des traitements. Le dimanche, l'ensemble d'équipes de dépistage est arrivé pour pouvoir dépister sur place. Il faut avoir une logistique particulière pour mieux soigner dans les îles.
Et ne serait-il pas possible de créer des postes de soignants pour renforcer les équipes dans les archipels éloignés ?
Oui, il faut aussi des postes de soignants. Mais il ne faut pas que ça. Parce qu'on ne peut pas avoir un docteur dans chaque île. On veut développer la télémédecine. On pourra, derrière un écran, évaluer la situation d'un malade. Ça, c'est en cours. Cela va être mis en place cette année. On va aussi mieux former nos personnels des îles, notamment pour avoir les gestes d'urgence au plus près de la population.
Encore faut-il avoir de bonnes conditions Internet. Est-ce qu'on est prêt à ce niveau ?
Déjà, les câbles sont arrivés sur chaque île. On fait maintenant les raccordements nécessaires. L'objectif, c'est simplifier la vie des gens avec un meilleur accès pour tous dans les îles.
Vous avez présenté un projet de modification du statut du centre hospitalier de Polynésie française. Le personnel a l'impression qu'on se tourne vers la privatisation. Est-ce que c'est réellement un projet ?
Ce n'est pas une privatisation de l'hôpital, pas du tout. On veut donner plus de souplesse dans la gestion. Aujourd'hui, on met 2 mois pour faire le recrutement d'un médecin. Donc, on veut donner plus de souplesse dans le recrutement et la gestion, parce que ça ne se gère pas comme un établissement administratif classique. On doit avoir du soin toute l'année, tout le temps. Et ce n'est pas le budget qui doit conditionner l'achat ou non de médicaments. On veut assouplir le système pour recruter plus vite, plus facilement et avoir des soignants derrière chaque patient.
Maintenant, écoutez le troisième enregistrement une seconde fois.
Bonjour Cédric Mercadal, vous êtes ministre de la Santé. En Polynésie française, la situation est catastrophique pour les habitants des archipels éloignés qui ont besoin de soins. On va s'intéresser tout d'abord à la situation des évacués sanitaires, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin d'être envoyées d'urgence à l'hôpital pour être soignées. Les autorités locales dénoncent les conditions d'évacuation sanitaire. Un exemple, fin janvier, avec une mère de famille de Makemo refusée sur un vol intérieur. Elle n'a pas pu aller sur Tahiti, à Papeete, la capitale polynésienne, pour faire un test de dépistage ou la coqueluche. Quelle solution proposez-vous à nos malades dans les archipels éloignés ?
On a un territoire grand comme l'Europe qui aujourd'hui demande à faire du soin partout et auprès de tous. On a 39 000 évacuations sanitaires inter-îles par an. C'est énorme. Cela veut dire que des gens viennent quasiment tous les mois à Papeete se faire soigner dans le cadre de maladies graves, mais aussi pour des dépistages ou pour de la visite de routine. Il faut qu'on continue à travailler le système des évacuations sanitaires, parce que ce qui s'est passé à Makemo est une situation particulière, où on n'a pas voulu prendre en compte un dépistage sur Tahiti pour ne pas contaminer les membres de l'avion. C'est une décision du commandant de bord, qui est tout à fait compréhensible au regard du principe de précaution. Mais il faut pouvoir dépister les gens au plus près. On a envoyé ce jour-là l'ensemble des traitements. Le dimanche, l'ensemble d'équipes de dépistage est arrivé pour pouvoir dépister sur place. Il faut avoir une logistique particulière pour mieux soigner dans les îles.
Et ne serait-il pas possible de créer des postes de soignants pour renforcer les équipes dans les archipels éloignés ?
Oui, il faut aussi des postes de soignants. Mais il ne faut pas que ça. Parce qu'on ne peut pas avoir un docteur dans chaque île. On veut développer la télémédecine. On pourra, derrière un écran, évaluer la situation d'un malade. Ça, c'est en cours. Cela va être mis en place cette année. On va aussi mieux former nos personnels des îles, notamment pour avoir les gestes d'urgence au plus près de la population.
Encore faut-il avoir de bonnes conditions Internet. Est-ce qu'on est prêt à ce niveau ?
Déjà, les câbles sont arrivés sur chaque île. On fait maintenant les raccordements nécessaires. L'objectif, c'est simplifier la vie des gens avec un meilleur accès pour tous dans les îles.
Vous avez présenté un projet de modification du statut du centre hospitalier de Polynésie française. Le personnel a l'impression qu'on se tourne vers la privatisation. Est-ce que c'est réellement un projet ?
Ce n'est pas une privatisation de l'hôpital, pas du tout. On veut donner plus de souplesse dans la gestion. Aujourd'hui, on met 2 mois pour faire le recrutement d'un médecin. Donc, on veut donner plus de souplesse dans le recrutement et la gestion, parce que ça ne se gère pas comme un établissement administratif classique. On doit avoir du soin toute l'année, tout le temps. Et ce n'est pas le budget qui doit conditionner l'achat ou non de médicaments. On veut assouplir le système pour recruter plus vite, plus facilement, et avoir des soignants derrière chaque patient.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Terminez maintenant le travail sur cette partie du test. Fin de la première partie, le test continue à la page suivante.